Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à Radio Présence, donc dans l'émission Au-delà des apparences. Nous sommes sur le deuxième volet avec Thomas Coudrette, bénévole au CEDIS, collectif d'entraide et d'innovation sociale. Donc je disais, il est militant, il est atypique, il est ultra pragmatique et il a quand même non seulement des constats effectivement pas faciles, mais aussi toute une panoplie de propositions, de solutions. C'est quelqu'un que je connais depuis des années qui ne baisse jamais les bras, même si globalement quand même, notamment sur l'hébergement, on peut dire qu'on est quasi en panne. Hébergement d'urgence, c'est la panne sèche aujourd'hui.
Ben c'est la panne sèche parce que le logement, plus généralement, est en grave crise. Comme en fait le dernier maillon, c'est celui du logement, l'hébergement sature. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a inutilement trop de places d'hébergement, quelque part. Le problème, c'est que les gens sortent plus de l'hébergement vers le logement. Donc ça, c'est un souci majeur. Et on parle de chiffres absolument énormes, en fait, en termes de mal-logement, puisque le mal-logement, c'est pas que, évidemment, la question des personnes à la rue ou personnes SDF, hébergées ou non. C'est bien plus large, la question de l'accès au logement.
Et donc C'est-à-dire Il faut aussi préciser qui est à la rue, parce que tout le monde a en tête, effectivement, le SDF, mais pas du tout.
Oui, le mal logement,
on parle d'enfants,
voilà. Alors il y a la question
de travailleurs.
Il y a la question de la diversité des personnes qu'on trouve à la rue. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'années, on considérait qu'il y avait des publics protégés. Par exemple, on n'aurait pas laissé à l'époque des personnes mineures à la rue. On n'aurait pas laissé. Aujourd'hui, on voit des femmes enceintes de 8 mois à la rue.
À l'époque, c'est quand?
Oh ben, il y a encore quelques années. En réalité, on va dire ça fait 10-15
ans. Moins de 10
ans.
Ouais,
oui,
voilà.
Oui,
ouais,
ça fait 10-15 ans qu'on s'enfonce dans cette situation-là et que public protégé après public protégé, les gens se retrouvent à la rue. Là, aujourd'hui, effectivement, on voit vivre à la rue des femmes enceintes de 8 mois. On voit des dames ressortir avec leur bébé directement de la maternité à la rue, ce qui est terrible. Et qui montre bien d'ailleurs le côté absurde, c'est que du coup, l'hôpital, la maternité va les garder une ou deux semaines en plus, ce qui coûte une fortune, alors qu'en fait, avec cet argent-là, on aurait pu l'héberger bien longtemps. Donc on voit aussi d'ailleurs, à travers cet exemple des femmes sortant de maternité, que c'est absurde en réalité de fonctionner comme ça.
Combien ça coûte de fonctionner comme ça et combien ça rapporterait ?
Deux semaines en maternité, parce qu'on attend que le bébé ait 15 jours pour le mettre à la rue. Enfin, c'est humainement, c'est insupportable, et économiquement, c'est absurde en fait. Donc on a aussi des femmes et des parents avec des tout petits nourrissons. On a évidemment beaucoup de gens malades. On a de plus en plus d'étudiants aussi concernés par la précarité qui n'arrivent pas à se loger même avec leur petit boulot. Donc on a des gens qui bossent effectivement, qui sont dehors. Souvent...
Quand on dit dehors, c'est aussi dans la voiture.
Hein, dans la voiture, oui. Voilà, dehors, dans une voiture, dans une tente.
Sous un abri.
Dans une entrée d'immeuble, dans un parking. Enfin, malheureusement, je pense que beaucoup de gens le constatent eux-mêmes. On a aussi des fois des gens qui nous contactent parce qu'ils ont quelqu'un qui vit dans leur parking. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans les parkings, par exemple, à Toulouse. Donc c'est assez terrible. Et donc ces publics sont plus protégés, alors qu'avant, on pouvait dire à quelqu'un, alors là, pour le coup, il y a très longtemps, on pouvait dire, si vous avez un boulot, vous avez un logement. C'est plus le cas. Évidemment, ça aide, mais c'est pas suffisant. Donc on a effectivement tout un tas de gens malades, on a des nourrissons, on a des personnes âgées aussi, ce qu'on n'avait pas avant. On a de plus en plus aussi de gens atteints de handicap, etc.
Et de
maladies mentales. Donc, Non, il y a à peu près plus aucun public qui est à l'abri, quoi.
Et aujourd'hui, donc, on est en février, mi-février, on est dans le plan, enfin, dans la gestion hivernale, je dirais, de tous ces gens à la rue. Et ça aussi, ça dysfonctionne.
Alors oui, c'est ça, la gestion hivernale, je me demande si on peut encore appeler ça une gestion.
Ouais.
La préfecture, depuis quelques années, alors pour vous resituer, il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelle les plans grand froid. Et donc on surveillait tout l'hiver, nous, pour voir quand est-ce qu'il fallait demander l'activation. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait deux nuits avec des températures ressenties négatives pour que soit déclenché le plan grand froid. Donc les gens le savent, régulièrement l'hiver, il y avait des ouvertures de gymnase. Et c'est pas merveilleux, mais les gens y venaient, ce qui prouve bien quand même que c'est mieux que rien. Et donc on avait des gymnases ouverts avec une centaine de personnes qui dormaient les uns à côté des autres dans une sorte de grand dortoir. Donc c'est pas très satisfaisant en termes de conditions d'accueil, mais si les gens venaient, c'est que c'était déjà bien mieux que ce qu'ils pouvaient avoir sans ça. Et ça fait un certain nombre d'années qu'on n'a plus ces déclenchements-là. Et donc, on n'a plus,
parce qu'il n'y a plus d'hiver ou alors parce que...
Malheureusement, on a encore du temps froid, hein, on a pu le voir au mois de janvier, mais parce que l'État a dit, bon, on ne va plus faire la politique au thermomètre. Donc nous, quand on disait faire la politique au thermomètre, on voulait dire qu'il faut que les gens soient à l'abri et hébergés toute l'année. Là, en fait, on se retrouve avec le cas de, même l'hiver, les gens restent dehors. Et c'est-à-dire que ce qu'on ne voyait pas avant, c'est par exemple des gens qui restent dehors quand il fait moins 4 ou moins 5, des familles là aussi, y compris qui restent dehors. Et ça fait quelques années qu'on avait bien compris qu'il y avait des sortes de critères qui n'étaient pas assumés par la préfecture de Haute-Garonne, mais que d'autres assument. Par exemple, la préfecture de Seine-Maritime, qui depuis des années écrit donc noir sur blanc, le fait que le temps froid commence à moins 5 degrés, va jusqu'à moins 10. Et qu'il ne faut pas que ça repasse en positif la journée. C'est-à-dire que l'État écrit noir sur blanc que s'il fait moins 4, le temps n'est pas froid. S'il fait moins 6 et que vous remontez à 0 en journée, le temps n'est pas froid. Donc c'est quand même, même dans les mots, on voit la gravité. Enfin, je veux dire, il faut imaginer qu'on lit ça dans un bouquin, par exemple, quelque part, à une autre époque, on dit qu'à moins 4, le temps n'est pas froid. Enfin, c'est grave. Moi, je pense que c'est ce genre de choses où on se demande a posteriori comment on avait pu faire des choses pareilles. Là, moi, je demande comment on peut en être là, comment on peut dire que le temps froid commence à moins 5 et qu'encore, il ne faut pas que ça monte à 0 en journée. Si à 15h, il fait 0, le temps n'est pas froid. Enfin, c'est gravissime. C'est écrit noir sur blanc. Et cet hiver, le préfet a enfin reconnu en Haute-Garonne qu'il ne comptait pas mettre les gens à l'abri s'il ne faisait pas moins 10.
Alors, comment on en est arrivé là, comme vous dites ?
Ben, je pense qu'il y a un vrai problème idéologique, en fait, hein, parce que c'est clairement pas un problème économique. Le logement, en général, ça demande des moyens, etc., qui sont, à notre avis, vraiment très justifiés par le fait que ça permet de respecter les droits les plus fondamentaux et que quelqu'un de logé va, du coup, pas tomber malade, on va pas lui envoyer la police pour l'expulser, il va pas se retrouver dans un parc à solliciter les services espaces verts de la ville, etc., etc. Donc le logement, c'est un investissement. Mais là, on parle de mise à l'abri. Pour prendre un exemple, par exemple, cet hiver, il y a 40 places pour des hommes isolés qui sont prévues par la préfecture. Tout est prêt. L'association gestionnaire a en plein de Toulouse, tout près d'ici d'ailleurs, 40 places avec des lits picots, donc c'est un dortoir, prêt à accueillir 40 personnes de la rue. Il suffirait pour, en termes de moyens, de financer un vigile pour renforcer un peu les bénévoles la nuit. Donc pour le prix d'un vigile, vous avez 40 personnes mises à l'abri. Donc c'est vraiment pas la question budgétaire. Nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, il s'agit d'une terrible idéologie déshumanisée et déshumanisante, et que du coup, on a affaire à une préfecture qui, quelque part, veut être dans les bons élèves, fait du zèle en disant « Regardez-nous, à moins 4, on arrive à laisser les gens dehors ». Par élimination, on arrive à ça, puisque c'est pas une question budgétaire. C'est pas une question économique. Donc il y a une posture vis-à-vis de la pauvreté, de laisser les gens dehors, même quand il fait moins 4. Et ça, c'est vrai que voilà, quand le préfet a reconnu il y a quelques jours, il a écrit aux associations le fait que s'il fait pas moins 10, il laisse les gens dehors. Nous, on pense déjà que c'est pas ce que veulent les gens, parce que les gens sont parfois fatalistes sur certains sujets comme le logement, etc. Mais de là à laisser des personnes par moins 5 dehors, ça, on pense que c'est même pas ce que sont prêts à accepter les gens.
Une idéologie ou une banalisation ?
On pense une idéologie, parce que oui, enfin, c'est banal maintenant de voir des gens à la rue. En revanche, le fait d'avoir une posture qui se dit non, en fait, on va les laisser dehors, ça va peut-être les pousser à se bouger, ou ils vont peut-être aller ailleurs.
À se ressaisir.
Voilà, ou aller dans une autre ville. Parce qu'il y a aussi ce côté, ça on le sait, la préfecture réfléchit aussi il faut que ça soit l'accueil soit le pire possible à Toulouse, comme ça les gens iront ailleurs. Et on se retrouve quand même, par exemple, à citer Christian Estrosi à Nice. qui clairement a montré qu'une collectivité, même sans l'État, pouvait se mobiliser, parce que à Toulouse, M. Moudin nous dit aussi, bah oui, c'est l'affaire du préfet. En réalité, les mairies peuvent mettre à l'abri. Christian Estrosi l'a montré, tout ça, c'est trouvable, ces infos-là. La ville de Nice mobilise des gymnases pour mettre les gens à l'abri. Donc nous, à Toulouse, on en veut à la fois à M. le préfet de pas déclencher de mise à l'abri quand il fait des températures négatives, et on en veut aussi à M. Moudin de dire, ah ben ça, c'est que l'affaire de l'État. C'est pas vrai, encore une fois, ne serait-ce qu'à Nice, on voit bien qu'une mairie peut s'emparer du sujet et mettre les gens à l'abri par juste dans une logique tout simplement humaine et humaniste.
Donc une logique humaine et humaniste qui aurait tendance à finalement devenir presque un peu secondaire aujourd'hui, vous avez l'impression, de manière générale, même si on reviendra dessus sur la troisième émission.
Oui,
ce sera le thème de la troisième émission.
Je pense qu'il y a un problème culturel, effectivement, chez certains dirigeants, et notamment dans les préfectures, de pouvoir admettre une chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent avec beaucoup, beaucoup d'argent, qui consomment beaucoup, beaucoup de choses, et d'autres auxquels on n'accorde même plus le fait de se mettre à l'abri dans un gymnase en plein hiver.
Donc État, et puis ensuite, évidemment, municipalité et préfecture. Thomas Coudrette, merci. À la semaine prochaine, où on attend aussi les bonnes initiatives et les solutions.